Si t'as pas, si t'as pas trop bu de... Remarque, tu dois aller peut-être te baigner dans le canal, non?
Moi
Saint-Martin.
Non,
oui.
Non, non, ça va pas à la tête. Hein. Tu sais, je, mon, ah, ma, l'un de mes grands amis était Marc Lémé. Hein.
Bien, eh bien, bonsoir.
À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses, écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floch et de Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventru congresse, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Giraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitant de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est intègre, mais le populo leur dit, gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floch et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent des fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouges, bleus ou blancs. Il faudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur paies des ripailles, toi peuple souverain. Et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floch et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, il faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Ce Floch et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement.
Jette ses enfants dans la rue de l'oubli. C'est la honte publique au cœur de la nation. La danse de l'argent dans la rue du profit. La danse de l'argent dans la rue du profit.
Je t'en prie, fillette, surtout ne crois pas qu'un jour il y aura entre toi et moi, rien de plus que ça. Car vois-tu, fillette, quand...
De sens, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. Nous sommes quoi, le 4e lundi, deuxième et quatrième lundi, et je sais plus si aujourd'hui c'est le deuxième ou le quatrième, je suis perdu. En tout cas, on est là.
C'est le quatrième.
C'est le quatrième. Voilà.
Je pense que le 22, c'est un peu trop loin du début du mois.
Oui, bah, avec cette chaleur, je suis complètement perdu personnellement. Voilà. Alors, donc, ben, aujourd'hui, on est plus nombreux que d'habitude. Nous allons commencer par les nouvelles recrues, Léo et Léonore.
Bonjour.
Voilà, tu étais avec nous la dernière fois, mais côté technique. Et aujourd'hui, tu vas nous faire le plaisir de parler dans le micro. Donc, c'est super.
Tout à fait.
Il y a Camille qui est avec nous, mais qui n'est pas derrière le micro. Et voilà, elle fait de la radio par signe. donc, bonjour Camille, quand même. Salut Yann.
Salut, salut.
Bon. Et bonjour Sébastien.
Salut tout le monde.
Alors, on va faire, comme à notre habitude, commencer par des actus marquantes, les trucs qui se sont passés dans l'actualité et qui nous ont marqués. Qui commence ? Sébastien ?
Allons-y. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, je m'étais réjoui dans l'actualité de début d'émission que François Bayrou ne soit pas réélu maire de Pau. J'avoue, c'est pas très gentil de ma part. Et je me disais en fait que maintenant qu'il était sans mandat et condamné à la retraite, on ne l'entendrait plus. Mais c'était sans compter sans la graphomanie des élites politiques qui sont forcées au retrait de la vie publique. Et donc François Bayrou nous a pondu un livre qui est sorti le 18 juin, qui voilà. N'est pas un appel, hein. C'est « Alerte sur la France qui vient ». Et en gros, c'est un livre sur lequel il est revenu sur le fait qu'il avait raison avant tout le monde et qu'il n'a eu tort sur rien.
Et bon, ça, c'est étonnant. Quand même.
C'est incroyable, incroyable. On soirait vraiment ailleurs qu'en France.
La remise en question, ce n'est pas au programme, par contre.
Le truc, globalement, moi, c'est, si j'en parle, c'est anecdotique. Hein. Je pense que personne ne va lire ce livre après m'avoir écouté. Mais moi, ce qui m'hallucine quand même, c'est le fait qu'il a répété dans ce livre toutes les contre-vérité qu'il a eu ces derniers mois sur Betarame, etc. Lui qui est au centre de toute responsabilité a toujours nié en avoir la moindre. Mmh. Et c'est vrai que c'est un truc psychologique qui m'interpelle. Je me dis, mais comment font ces gens pour ne jamais reconnaître la moindre erreur, la moindre faute, alors qu'ils sont vraiment au pouvoir depuis au moins 10 ans pour certains, et parfois 30 ans pour d'autres.
Le déni est très très puissant chez certaines personnes. D'ailleurs, je vais peut-être en parler, pour le coup.
Enfin, voilà. Donc, ne lisez pas ce livre, même s'il est sans doute très très bien.
Alors, de mon côté, oui. Je vais parler d'un bouquin qui est sorti très récemment, qui est un bouquin de Maggie Haberman et Jonathan Swan, donc c'est des journalistes du New York Times, qui s'appelle Regime Change, donc le changement de régime, et qui, en gros, donne beaucoup de détails sur la première partie du deuxième mandat de Trump, celui qui est en cours. Première partie de son deuxième mandat, parce qu'il y a les midterms bientôt, donc c'est pas fini. Et c'est super intéressant, parce que ça couvre plein de choses, de ses négos avec Bezos, Zuckerberg et compagnie, jusqu'au déclenchement de la guerre en Irak. Et donc voilà, jusqu'où son électorat ira dans le déni, justement, puisqu'on en parlait, c'est la question que je me pose maintenant.
Très bien. Bah, pour ma part, je voulais revenir sur les émeutes qui se sont déroulées à Belfast. Émeutes racistes, donc pour restituer un peu le contexte, il y a eu une agression couteau perpétrée par un étranger, assez violente. Du coup, ça a déclenché des émeutes où les locaux ont commencé à aller agresser les étrangers. Et tout ça a été encouragé et alimenté par Elon Musk au travers de ses réseaux sociaux. Ça fera écho à ce que je dirai un peu plus tard aussi. L'influence, on est à Belfast, on est en Europe, mais Elon Musk a capacité à déclencher des émeutes.
Oui, bon. Il a aussi une capacité en un tweet à faire monter ou baisser le coût de la bourse et plein de choses.
Oui, mais bon.
Je pense que quel que soit le sujet de nos émissions, que ce soit le fascisme, l'IA ou le masculinisme, on aura toujours besoin de parler de Musk à un moment.
Et de Trump.
Oui, lui, c'est joué. Mais je pense que c'est l'antagoniste universel.
C'est le nouveau point Godwin, en fait.
Très bien. Alors, on a parlé de nos actus marquantes. On va peut-être introduire notre sujet du jour en deux mots. Cette fois, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a le sujet de notre émission, c'est offensive réactionnaire, les femmes en première ligne. Et donc, on va parler de ça sous différents angles. En attendant, on va se faire un petit morceau de musique. De quoi s'agit-il, Sébastien, c'est toi qui l'as choisi celui-là, c'est ça?
En effet, mon cher Luc. C'est une chanson écrite par Alan Roberts et Doris Fisher pour un film, en fait. C'est Put the Blame on Mame. Le film, c'est Gilda de Charles Vidor. C'est un film sorti en 1946. Et le film est célèbre par une scène devenue culte où l'actrice Rita Hayworth, qui chante la chanson dans le film, retire en public de longs gants noirs évoquant un striptease. Et à l'époque, dans l'industrie hollywoodienne, c'était vraiment très très osé et ça a été un summum d'érotisme en fait. Mais si j'ai programmé cette émission pour ce soir, c'est parce qu'elle évoque les grandes catastrophes qui ont marqué l'imaginaire américain, un incendie, un blizzard à New York, un tremblement de terre à San Francisco, et à chaque fois la chanson explique que en fait la vraie responsable c'est une dénommée Mame, une femme fatale qui avec ses ébats et ses déhanchements aurait mis littéralement le feu à l'Amérique. Mais au-delà des sous-entendus grivois, en fait, c'est une charge ironique contre le rôle de bouc émissaire auquel la morale, la société, la religion réduisent les femmes depuis l'histoire du péché originel. Put the blame on Mame.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old trick. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Mame, boy. Put the blame on Mame. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Mame, boy. Put the blame on Mame. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Mame, boy. Put the blame on Mame. Mame did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on Mame, boys. Put the blame on Mame.
Vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4 FM, et vous écoutez l'émission En panne de sens.
Du coup, c'est moi.
Ben oui, vas-y, Léo, t'écoute.
Ça va être moi. Ok, donc c'est ma première chronique, donc soyez indulgents.
Si non, on te juge.
Alors, il y a quelques années de ça, une ribambelle d'articles annonçait que 37% des hommes estiment que le féminisme menace leur place dans la société. En allant lire le rapport qui contient cette statistique, le rapport annuel sur le sexisme de 2024, je suis tombée sur le plus récent des rapports du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui date de janvier 2026, intitulé « La menace masculiniste ». Eh bien, sachez qu'en 2 ans, cette statistique a changé. Et oui, ce n'est plus à l'heure actuelle 37% des hommes qui pensent que le féminisme menace leur place dans la société, mais 39%. Alors, certains vont me dire, bon, 2%, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Mais 2% des hommes français, c'est quand même 672 000 hommes. C'est comme si en 2 ans, l'entièreté de Lyon, la 3e ville la plus peuplée de France, et de Nîmes, la 21e, s'était soudain dit que, quand même, les féministes, elles menacent un peu la place des hommes dans la société.
Pas les féministes, les femmes.
Juste. Et d'ailleurs, aussi étonnant que ça puisse paraître, ce n'est pas du tout moins courant chez les jeunes. Au contraire, l'idée que les avancées en faveur des femmes créent des désavantages pour les hommes est bien ancrée chez les jeunes hommes. 42% seulement d'entre eux considèrent qu'il est désavantageux d'être une femme dans la société actuelle, contre 75% des jeunes femmes. Alors, outre ces chiffres, le rapport est très intéressant pour notamment une raison particulière. Il introduit la notion de sexisme paternaliste et de sexisme hostile. Alors, le sexisme paternaliste, c'est celui qui peut sembler à première vue bienveillant, voire même protecteur. C'est 23% de la population qui adhère pleinement à cette vision, 5 millions de femmes et 7,5 millions d'hommes. C'est l'idée que la femme, elle doit être douce, sensible, belle, discrète, mince et apprêtée, mais pas trop.
Et protégée.
Et protégée. Avoir ou vouloir des enfants, être fidèle et dévouée, faire passer sa vie de famille avant sa vie professionnelle, avoir eu peu de partenaires sexuels, être fragile, dépendante et dévouée. Et du coup, bien sûr, que les hommes, eux, doivent la protéger. C'est une forme de sexisme qui passe par le renforcement des stéréotypes de genre, les blagues misogynes, qui, quand elles ne font pas rire les femmes, leur valent un « Oh, les femmes, vous n'avez vraiment pas d'humour ». C'est la forme de sexisme qui fait soupirer 56% des Français, qui estiment que les femmes sont quand même trop rapidement offensées, et lever les yeux au ciel des seniors qui vous diront que, quand même, c'était pire avant. Alors, ils n'ont pas tort, hein. Ma mère, elle avait 3 ans quand les femmes ont eu le droit en France d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Elle avait 6 ans quand la contraception a été autorisée et 14 quand la loi Veil sur l'IVG est passée. Ma grand-mère, elle avait 16 ans quand les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944. Alors que oui, c'est sûr à côté de ça, hein, la mairie de Puteaux qui distribue des cartables bleus pour les filles et bleus pour les garçons et roses pour les filles, des masques roses et bleus pendant le Covid pour la mairie du 17e, les ouvriers de chantier ou les concessionnaires qui ignorent madame pour ne parler qu'à monsieur, les blagues sur la place des femmes à la cuisine et la mentalité boys will be boys, ben oui, à côté du droit de vote, hein, ça paraît presque anecdotique. Mais c'est justement cette banalisation des stéréotypes et de la hiérarchisation entre les femmes et les hommes qui permet ensuite un sexisme plus dangereux, physiquement pour les femmes, le sexisme hostile. Le Haut Conseil à l'égalité, il le définit comme le regroupement des attitudes explicitement violentes, négatives, méprisantes ou agressives envers les femmes, qui sont alors considérées comme inaptes, manipulatrices ou menaçantes, afin de renforcer un pouvoir masculin supposé légitime. En d'autres mots, ben, le sexisme hostile, c'est la haine des femmes. C'est la communauté Red Pill, nommée après la pilule rouge de Matrix. C'est les Men's Rights Activists, les mâles alpha contre les hommes soja, représentés par des figures comme Elon Musk, Andrew Tate, ou les podcasteurs influenceurs HS Tiki Toki ou Myron Gaines, dont Louis Theroux dresse le portrait dans son documentaire « Plongé dans la manosphère ». C'est les incels, les célibataires involontaires, probablement le groupe masculiniste le plus médiatisé ces dernières années, qui sont responsables de nombreux attentats et fusillades, qui rejettent la faute de leur célibat involontaire sur les femmes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la règle du 80-20. C'est cette idée selon laquelle 20% des hommes attirent 80% des femmes de la planète.
Ils sont aussi dans une logique de trophée qui est beaucoup diffusée à travers les fictions, en fait, depuis super longtemps.
De cela d'ailleurs découlent les looks maxers, les optimisateurs d'apparence, comme par exemple l'influenceur Clavicular, qui est d'ailleurs en train de se prendre des râteaux à Paris. C'est très satisfaisant à regarder. Il y a aussi les pick-up artistes, les coachs en séduction, qui apprennent aux hommes comment choper de la meuf. Leur technique de séduction, elle est généralement tournée autour de la manipulation, l'isolement et la déshumanisation des femmes. Pour celles et ceux qui ont pu voir la mini-série Adolescence sur Netflix, cela vous rappellera peut-être, attention spoiler, la discussion entre la psychologue et Jamie qui explique qu'il a invité sa camarade de classe à sortir quand elle était au plus bas parce que j'ai pensé que si elle était vulnérable, elle m'apprécierait peut-être.
Ouais, le côté j'ai été gentil donc j'ai le droit en fait.
C'est le nice guy.
D'où la récompense. l'idée de la personne vue comme une récompense.
En Asie, le sexisme hostile, c'est aussi les Botsukari Otoko, les hommes qui bousculent. C'est des hommes japonais qui heurtent violemment les femmes dans les transports en commun et dans la rue, en se mettant exprès en travers de leur chemin. Et en Corée du Sud, c'est aussi les deepfakes pornographiques de lycéennes et de collégiennes qui sont créés et diffusés par leurs camarades de classe grâce à l'intelligence artificielle. Le sexisme hostile, il passe aussi de manière beaucoup plus insidieuse par l'essor sur les réseaux sociaux du mouvement des tradwives. C'est pas étonnant hein, qu'avec 17% de la population qui a une opinion favorable du sexisme hostile, les femmes participent et véhiculent également cette idéologie. Alors pour vous expliquer en quelques mots, les tradwives ou femmes traditionnelles, ce sont des femmes qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram notamment. Elles portent de jolies robes, elles sont dans la cuisine ou dans leur jardin, elles font du pain ou alors du jardinage et des oréos de A à Z. Alors, attention, tradwife et femme au foyer, c'est pas la même chose. Il y a rien de mal, objectivement, à être une femme au foyer, c'est pas antiféministe. Vouloir des enfants, aimer cuisiner pour sa famille, on n'a aucun souci avec ça. Le mouvement des tradwife, lui, il est profondément ancré dans une idéologie qui est conservatrice, genrée, une vision du monde où l'homme travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, tandis que la femme s'occupe gratuitement du foyer et des enfants. C'est une vision du monde où la femme fait preuve d'une déférence complète envers son époux, qui pourrait presque vous faire croire qu'il s'agit d'un kink, hein, une relation de soumission 24 heures sur 24 BDSM, si les tradwife, elles avaient un mot de code qui leur permettait de mettre en pause cette dynamique. Alors, des exemples de tradwife, on pourrait citer Nara Smith, Anna Nilman, aussi connue sous le nom de Ballerina Farm, Alice Cordier du groupe Nemesis en France, ou encore Erika Kirk, qui a récemment inauguré la 11e édition du sommet du leadership des femmes à San Antonio. Des femmes qui cherchent à nous vendre un idéal de vie où nous devrions abandonner notre indépendance, ne pas poursuivre une éducation, laisser tomber notre job, devenir mère et nous dévouer à notre époux et à Dieu.
Mais ça rejoint encore ce discours sur le fait que la femme a besoin d'être protégée par un homme costaud, etc., finalement, qu'on a mentionné avant.
Exactement. Sauf que si un jour, notre époux nous trompe, nous quitte ou bien meurt, dans ces cas-là...
Ou nous tue à coup de poing. Parce que ça arrive. Je suis désolé, mais c'est vrai que ça arrive.
Mais si on se retrouve sans notre époux, nous n'avons alors aucune éducation, aucune expérience dans le monde du travail et aucun argent à notre nom. Mais c'est pourtant ça, d'après elle, la véritable féminité, c'est dépendre d'un homme jusqu'à la fin de nos jours. Je ne peux d'ailleurs, entre deux rires nerveux et horrifiés, que souligner l'hypocrisie totale de ces femmes. Anna Nilman, par exemple, elle a gagné approximativement 60 000 dollars ces trois derniers mois grâce à sa chaîne YouTube. Erika Kirk, c'est la PDG de Turning Point USA, l'organisation créée par Charlie Kirk, son mari. Ces femmes sont des entrepreneuses qui se font leur propre argent en encourageant d'autres femmes à renoncer à leur indépendance. Alors, que ces femmes soient ouvertement politisées comme Erika Kirk ou non, elles participent activement à la diffusion du message masculiniste en vendant aux femmes un rêve conservateur emballé dans un algorithme bien lisse et qui sent bon le levain. Mais les réseaux sociaux ne se limitent pas aux tradwives pour diffuser leur idéologie conservatrice aux jeunes filles. Si vous n'allez jamais sur TikTok ou Pinterest, vous n'avez peut-être pas entendu parler des nouveaux standards de beauté féminin, la tendance « clean girl », littéralement « fille propre », qui prône un look minimaliste, chic, naturel, obtenu par le biais des soins de la peau plutôt que du maquillage. Alors on est loin d'une crème solaire et d'un stick à lèvres, on est face à une industrie qui cherche à nous vendre un nettoyant pour le visage, un masque à rincer, un tonique, un sérum, une huile pour le visage, un soin contour des yeux, un soin hydratant et une protection solaire. Et tout ça, c'est que la routine du matin. L'esthétique clean girl, c'est un maquillage qui donne l'impression de ne pas en porter, un t-shirt blanc, un jean clair, des bijoux fins et discrets comme uniforme, avec un smoothie à la main en allant à son cours de pilates. Parce que la clean girl, elle est forcément mince et puis aussi riche, parce qu'un sérum, ça coûte 25 euros, un smoothie 14 et un cours de pilates 40 euros. Cette tendance peut paraître dérisoire et anodine, mais c'est des milliers d'euros dépensés pour reproduire une esthétique qui aide à contrôler et diminuer la femme, y compris physiquement, parce que la mode est politique. Sur les tapis rouges, la crise de l'Ozempic, le médicament miracle qui fait perdre du poids, elle s'est abattue sur Hollywood. C'est le retour de la tendance héroïne chic qui balaye toutes les avancées qu'on a pu faire ces dernières années avec le mouvement body positivité. Fini les mannequins grosses dans les défilés, les formes dans les publicités. Être une femme aujourd'hui, c'est être lisse, chic, ne pas prendre de place, ni visuellement, ni physiquement, ni vocalement, et encore moins politiquement.
Accessoirement au sujet de l'Ozempic, c'est aussi qu'il y a ça fait des pénuries régulières et des vrais diabétiques qui n'en ont pas parfois.
Qui en ont besoin et qui n'y ont pas accès, ouais. Exactement. Je terminerai cette chronique avec un dernier point. L'essor sur Internet des contenus masculinistes est un poison pour toutes les générations, mais surtout pour les jeunes qui gobent cette idéologie à longueur de journée. Le baromètre du sexisme du Haut Conseil à l'égalité montre un lien entre l'utilisation de TikTok et de Twitter et une adhésion plus élevée au sexisme hostile. Alors parlez-en, restez alerte, et messieurs, ne laissez pas passer ces comportements, parce que c'est une lutte que les femmes ne peuvent pas mener seules, pas quand les masculinistes nous considèrent déjà comme des citoyennes de seconde zone.
Eh bien, merci beaucoup, Léo. Tu as choisi un morceau de musique, lequel est-ce? Non, c'est pas Léo.
C'est pas moi qui ai choisi un morceau.
Non, c'est Camille.
Camille. Ah, bah, c'est moi et j'ai retrouvé le chemin du micro.
Bravo.
Donc, le morceau qui va suivre est la chanson A Man d'Alanis Morissette. Elle est tirée de l'album de 2002 Under Rug Swept. Comme le titre l'indique, Alanis chante au nom d'un homme qui nous raconte qu'il a été élevé par des hommes sexistes, par des femmes maltraitées, qu'il risque de devenir un gros macho lui aussi. Alors peut-être il pourrait se remettre en question. J'en dirai plus dans ma chronique tout à l'heure.
I have repented.
Vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4 FM, et vous écoutez l'émission En panne de sens.
Eh bien, Yann, tu vas gratifier d'une de tes chroniques.
Eh oui, bah, je vais commencer par une petite devinette. Qui a écrit dans un bouquin qui n'a pas du tout été censuré, hein, qui a été rendu public, machin, si ça, « L'homme est par nature un prédateur sexuel usant de violence ». À quelle époque, surtout, ça a été écrit?
Ah, voilà, bah.
Je donne ma langue au chat.
Ah, c'est beau comme du Zemmour, hein, parce que c'est du Zemmour 2006. D'accord, soit ouais. 17 ans après la fusillade de l'école polytechnique de Montréal, de 1989, qui est un truc qui m'avait pas mal marqué quand j'étais jeune, parce que ça a été le premier, à ma connaissance, il y en a sûrement eu d'autres qui sont passés sous les radars, mais pas la première fusillade de masse, ça il y en a déjà eu, mais le premier féminicide de masse, parce qu'on peut le qualifier comme ça, parce que le mec il est rentré, il a braqué tout le monde, il a séparé les hommes des femmes, il a dit aux hommes de se barrer, il a battu les femmes, voilà. En disant clairement que c'était elle les cibles. Et voilà. Donc c'est assez marquant. Et c'était. Voilà. Donc, c'est un truc qui a tellement. Tellement fait bouger les esprits que donc, 16 ans après, Zemmour écrivait ça.
Oui. Tout en accusant les mineurs étrangers d'être tous des violeurs. Il était condamné pour ça d'ailleurs.
Absolument. Et donc voilà. Alors moi je vais. Bon, ça c'était une petite intro, mais en fait, moi, je vais surtout m'attaquer aux origines du sujet, c'est-à-dire qu'en gros, on met de la très très vieille soupe dans des nouveaux pots en pensant que c'est tout neuf, alors que c'est vieux comme quoi, comme le chapitre 1 de la Genèse, je dirais, ouais. À peu près. Oui, l'antiféminisme, il commence là. Les Grecs aussi l'ont très très bien pratiqué. On fait beaucoup de cherry picking, d'ailleurs, là-dessus. Donc bon, je vais remonter quand même aux origines du truc. Tout ce qui est tous ces mots, alors déjà, faut pas confondre masculinisme, antiféminisme, etc., etc. Tous ces mots, ils ont un sens et ils sont plus vieux qu'on croit. L'antiféminisme, il a été formalisé au milieu du 19e, donc c'est pas du tout un truc moderne. Le mot masculinisme à la fin du 19e. Et donc, dans les deux cas, et dans les autres aussi, c'est en gros des contre-mouvements. C'est pas des mouvements eux-mêmes, c'est des contre-mouvements, c'est-à-dire que c'est un truc qui est fondamentalement réactionnaire, en fait. Littéralement, quoi. Et qui tire, en fait, son inspi dans une misogynie qui est historique. Donc je parlais de l'imaginaire antique et biblique, suivant les cas, mais sélectif. Parce que par exemple, la misogynie grecque, on est parfaitement d'accord et tout, c'est la civilisation. Par contre, leur rapport à l'homosexualité, non, on oublie quoi. Par contre, on va mettre un chapeau dessus, parce que c'est pas conforme à notre vision de ce que ça devrait être, tu vois, la civilisation. Et en fait, c'est comme ça, c'est vieux comme le patriarcat, et ça trouve en fait sa justification dans la défense de la tradition, et d'une tradition qui s'est construite en fait à travers trois éléments. T'as un discours, en gros, différentialiste, hiérarchisé et essentialiste. Fondamentalement, c'est juste ça. Différentialiste énormé sur les genres. En gros, on définit ce qui est homme, ce qui est femme, et puis point barre. Socialement hiérarchisé, parce que forcément, en fonction de ça, on va déterminer des rôles et des fonctions qui ne seront pas les mêmes. Et essentialiste, parce que c'est prescrit, en fait, par des natures spécifiques des êtres. En gros, c'est fondamentalement, quand je dis que c'est essentialiste, c'est ça. C'est,
les femmes sont douces, les hommes, tout ça. Quoi.
C'est ça. Et en gros, bah donc, pour revenir au truc, donc on est différentialiste, socialement hiérarchisé et essentialiste, c'est-à-dire que c'est la recette de base de, pas juste du masculinisme, mais de à peu près toutes les discriminations de base, dont celle-là fait partie. Avec des spécificités qui lui sont propres aussi, évidemment. On est globalement dans un discours, comme je disais, profondément réactionnaire. C'est-à-dire qu'il n'invente rien, il ne crée rien, il ne réagit, en gros, il n'évolue que pour réagir à ce qu'il y a en face.
Ça, c'est un point très important parce que c'est un des arguments qui est sorti par les masculinistes en disant mais il y a des féministes, nous on est masculinistes, on est juste le miroir du féminisme.
Oui.
Et c'est pas du tout le cas. Ouais.
Le miroir, oui, effectivement, dans le sens où tu crées pas, tu crées en réaction uniquement à quelque chose d'autre, tu fais pas grand-chose. Je me suis intéressé aussi à Michael Kimmel, je sais pas si vous connaissez, c'est un sociologue US qui est spécialisé en études de genre, justement.
Oui.
Et donc, oui, selon lui, il y a l'idée vraiment que les espaces de circulation et d'expression, en fait, sont les moteurs des discriminations. Et en gros, l'idée, c'est vraiment que c'est le contrôle de la sphère publique et de la sphère privée, et la relégation d'une partie de la population à la sphère strictement privée, celle du foyer, et surtout pas d'expression publique, pas de présence publique, etc., etc. Parce que le public, c'est le domaine des hommes. C'est eux qui s'expriment publiquement, c'est eux qui s'imposent, etc. Quoi. Donc c'est cette partition-là qui est vraiment le truc qu'on retrouve beaucoup encore aujourd'hui. Hein. Léo, tu parlais des tradwives, ça marche totalement là-dessus.
Il y a des choses aussi sur la façon dont l'espace public dans la rue, par exemple, est occupé par des mecs.
Oui.
Et moi, en tant que mec, quand je passe à côté de la gare, ça me pose pas de problème et je le vois même pas. Mais quand la fille de ma compagne passe à 19 ans, elle, pour elle, c'est un problème.
Ben oui, ça, j'imagine, ouais. Et donc oui, le problème d'un truc comme ça qui est si profondément réactionnaire, c'est-à-dire que, comme je disais, il n'est pas créatif. Il peut l'être sur la forme, parce qu'il y a aussi une évolution des moyens de diffusion. Parce qu'effectivement, cyberharcèlement, revenge porn, etc., voilà, quoi, c'est quand même relativement récent. Mais globalement, il y a très peu de changements. Et d'ailleurs, ce qui est les changements, donc comme je disais, ils sont en réaction. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que dans le sujet en particulier du masculinisme ou de l'antiféminisme, tout ce que tu, peu importe le nom qu'on donnera à ça. D'ailleurs, chaque chose a une définition spécifique, mais je passerai pas mon temps à faire des définitions, sinon je passerai la soirée. Mais en gros, ça évolue quand il y a aussi une évolution de la notion de genre, par exemple. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, il y avait une grosse confusion jusqu'au XIXe de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'en gros, une femme trans, ça n'existait pas, c'était juste un mec homosexuel très efféminé. C'était comme ça que c'était perçu. Et du coup, c'était même pas un sujet, la transsexualité, dans l'esprit de pas mal de gens. Et maintenant, c'en est un. Donc, en gros, on fait évoluer les discriminations uniquement quand elles-mêmes se définissent d'une manière qui est cohérente, en fait, avec l'ensemble. Il y a un dénommé Karl Ulrichs qui en 1860 justement pour les transsexuels parlait d'âme de femme dans un corps d'homme pour les femmes trans. Donc ça montre bien que pour le coup la transsexualité n'était même pas un sujet. Et donc la notion de genre, elle évolue aussi en fonction de ça, mais généralement elle évolue que pour ajouter des discriminations supplémentaires ou des catégories supplémentaires aux gens qu'on discrimine. Donc là je parlais d'une manière générale de la rhétorique de la réaction. Donc qui est mentionné, il y a un bouquin de Diane Lamoureux qui s'appelle Les antiféministes, analyse d'une rhétorique réactionnaire, sur lequel je reviendrai, c'est un bouquin de 2015. Mais il y en a un autre antérieur qui n'est pas propre effectivement au féminisme, qui est plus général, qui s'appelle Deux siècles de rhétorique réactionnaire, qui est un essai du sociologue Albert Hirschman, et qui propose une analyse des arguments réactionnaires, dont les arguments antiféministes, mais pas que, qui sont développés principalement, lui il a étudié sur la France, l'Angleterre et les États-Unis du 18e au en 91, où il a publié son bouquin. Et le titre original, c'est Rhetoric of Reaction, Perversity, Futility, Jeopardy. Parce que pour lui, le discours réactionnaire, il se base sur ces trois éléments en fait.
Jeopardy, tu peux définir ? Parce que je connais le jeu, mais pas forcément la définition en français.
je vais même précisément te dire comment lui définit ces trois notions dans ce cadre-là. C'est-à-dire que, en gros, donc, lui, le discours réactionnaire repose sur trois éléments. Les gens aiment bien les listes en trois points. Il y en avait déjà une avant. En gros, la première, c'est perversity. Donc, c'est l'idée que les changements ont un effet pervers dans le discours réactionnaire. C'est-à-dire que forcément, quand tu vas améliorer les choses, tu vas apporter du changement, mais inévitablement, le changement sera pire, le résultat sera pire que le truc initial. Qui est apparu, c'est une rhétorique qui est assez vieille aussi, hein, qui est apparue notamment chez les contre-révolutionnaires après 1789 en France. Joseph de Maistre, notamment, c'était un spécialiste de ça, mais c'était un type assez peu sympathique, mais... et qui est réapparu plus tard chez les opposants au suffrage universel. Alors, non, dès la Révolution, chez les opposants au suffrage universel direct, mais pas forcément des femmes, ou très peu. Et puis ensuite, à la fin du 19e, ça s'est porté sur ce terrain-là. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième, futility, c'est l'idée que la deuxième thèse réactionnaire, c'est que le changement est inutile. En fait, ça ne marche pas. Ça marche pas parce que ça c'est un truc de Pareto en fait qui postule que malgré la diversité apparente des régimes politiques, c'est toujours les mêmes, ce qui est pas forcément faux à mon sens, mais voilà, le problème c'est que d'après Hirschman en fait c'est la thèse de l'inanité du changement social. En gros, c'est pratiquement accepte l'évidence. Il n'y a pas d'alternative, comme disait Thatcher. Et la troisième, donc Jeopardy. Voilà. Tu connais le jeu, donc c'est bien. C'est la troisième thèse. Donc c'est qu'une nouvelle réforme mettrait en danger ce qui a déjà été acquis. Voilà. En gros, c'est un pari, mais c'est un pari très risqué. Et alors, ce qui est très intéressant, en fait, parce que ça, c'est vraiment les trois arguments de base, et on les retrouve dans les discours antiféministes tous, pas que. On les retrouve dans les discours racistes, dans les discours qui défendent le colonialisme. On retrouve assez systématiquement ces trois-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces trois théories, en fait, elles se contredisent constamment. Par exemple, la thèse du changement qui est inutile et inefficace, la deuxième, c'est bien, mais dans ce cas-là, pourquoi ils mettraient les gens en danger, puisque ça ne marche pas ? Non, mais c'est vrai. C'est un exemple, il y en a pas mal, mais en gros, c'est blindé de failles de raisonnement, en fait, de trucs complètement illogiques. Et c'est assez intéressant pour ça, parce que pour moi, c'est aussi bien d'avoir des moyens de voir ça. La troisième thèse, oui, donc celle du danger des droits acquis, c'est qui est apparue au 19e. Et c'était un des trucs qui a été systématiquement utilisé par les conservateurs à chaque fois que les Whigs proposaient l'élargissement du suffrage universel. Voilà. Oui, ça met en danger la société. Voilà. Fin de discussion, c'est bon. Donc ça, c'est pour les discours réactionnaires en général, au sens large du terme. Et après, il y a les discours, les arguments historiques antiféministes. Eux, ils font appel essentiellement à des procédés d'appel à la nature, en fait. Qui est un procédé rhétorique qui suppose qu'une chose est bonne car naturelle et mauvaise car non naturelle. De base, c'est un pur sophisme. Bon, le gars qui a le plus tapé sur les sophistes, il est un peu mort en s'empoisonnant avec un produit naturel, mais c'est pas grave.
Voilà. Socrate.
Oui. voilà, c'est une obligation morale depuis l'Antiquité, mais qui apparaît donc chez les stoïciens énormément, qui disent bah oui, mais on va pas se prendre la tête pour ce qu'on peut pas changer. C'est bien, dans le principe, c'est bien. Mais définis ce qu'on peut pas changer, parce que si tu considères qu'on peut rien changer, c'est pareil, c'est encore une fois de accepter les choses telles qu'elles sont et surtout ne changer rien, quoi. Donc chez les stoïciens, chez les épicuriens dans une moindre mesure, etc. J'ai été beaucoup trop long, donc je vais aller plus vite. Mais globalement, ouais, l'appel à la nature, c'est un truc qui est intéressant parce qu'il a aussi évolué. En gros, et ça concerne beaucoup de milieux, aussi bien ouvriers que classe moyenne, voire bourgeois. Par exemple, tu as eu les premières étudiantes à la fin du 19e qui ont été admises à l'université, notamment en droit, donc profession libérale, je pense des milieux plutôt instruits, plutôt riches, etc. Grosse résistance, et résistance en train de dire, si tu veux être avocate, tu peux pas être avocate. Un homme peut être avocat, il a de la prestance, il est grand, il a de la voix, il parle bien, il en impose, lui il peut être avocat. Par contre, les femmes non. Et la génération d'après, elles étaient avocates, mais elles pouvaient pas être juges. Et on leur disait, les juges... les avocats, tu comprends, c'est des beaux parleurs, ils sont empathiques, comme les femmes. Enfin, en une génération, on est passé de l'un à l'autre, alors que les juges, ils sont rationnels, ils sont froids, ça marche pas, quoi. Donc ça, c'est le côté, vraiment, l'appel à la nature le plus con possible, mais qui est vraiment un grand classique. Et c'est un débat qui est revenu pas mal, avec le débat sur l'augmentation de l'être humain, en fait. Actuellement, sous la forme d'une opposition assez tranchée entre les penseurs dits bioprogressistes, d'un côté, et les autres qui sont vus comme réac. Mais étrangement, c'est revenu par la Silicon Valley qui est ultra réac. Donc c'est un truc que je ne comprends pas bien encore. Je ne sais pas si tu as une...
Oui, je vais peut-être en parler un petit peu.
Voilà. C'est très bien, ça introduit pas mal le sujet. Et je vais passer à la suite.
Peut-être que maintenant qu'on sait que la réaction c'était mieux avant, peut-être que.
Non, mais c'est
peut-être que Luc, tu peux présenter ton morceau.
Ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'il y a un continuum de pensée. C'est beaucoup, beaucoup dire pour une chose pareille, mais qui en fait est super vieux et qui n'invente pas grand-chose, en fait, qui se renouvelle pas du tout.
Toujours les mêmes arguments.
C'est juste la forme qui change.
Le morceau que je propose, c'est du Frank Zappa, ça m'arrive assez fréquemment. Le morceau s'appelle Bobby Brown Goes Down. C'est un morceau de très mauvais goût.
Il sera suivi par une bande-annonce également de très mauvais goût. Soyez prévenus, je parle du film après dont il sera question.
Voilà, le morceau raconte l'histoire d'un type, c'est le rêve américain, il est beau, toutes les filles sont derrière lui et tout ça. Et il va un peu glisser. Voilà. On écoute le morceau.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town.
My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then. Oh, she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Yeah, I knew you'd be surprised.
Toute ma vie, j'ai vu l'homme et la femme se déchirer. Faisons la paix, séchant nos larmes.
Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert?
Ça ne me regarde pas.
Bah alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande.
Vous voyez
pas. En quel honneur?
Bordel! Paul!
Paul, mon petit Paul, on éteint tous les soirs pendant 20 ans. Et on appelle ça le devoir conjugal.
Mais maintenant, à force de nous faire chier, elles ont gagné. Pas vrai?
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez l'émission En Panne de Sens. Et Sébastien, tu vas nous parler d'un film que peut-être que les plus cinéphiles auront reconnu avec les extraits.
Alors vraiment les plus cinéphiles, les cinéphiles très pointus, parce que c'est un film qui est réputé, le nom est connu, mais il a été très peu vu et on va dire que je ne vais pas m'en plaindre. 1975, c'est l'année internationale de la femme, proclamée par l'ONU. En France, le mouvement féministe est en pleine effervescence avec le MLF qui se mobilise. Simone Veil, il y a peu de temps, vient de faire voter la loi sur l'IVG sous les huées d'une bonne partie de l'Assemblée nationale. Et des femmes, nombreuses, organisées, prennent la parole, témoignent de l'oppression qu'elles subissent et revendiquent plus de droits. Donc ça ne date pas d'hier, n'est-ce pas, mon cher Yann? Et 75, c'est aussi l'année où un certain Bertrand Blier, auréolé du succès inattendu de son premier film qui s'appelait Les Valseuses, enfin son premier film de fiction, il a fait un documentaire avant, se met à écrire Calmos, un film qu'il assumera lui-même quelques années plus tard, enfin quasiment 50 ans plus tard, en 2021, comme une attaque de front contre les femmes et les féministes.
Alors, déjà que Les Valseuses...
Ah oui. Mais je veux en parler, j'en parle des valseuses. C'est aussi.
En même temps, dans ma vie, un film qui s'appelle comme ça, on sait que ça va parler de.
Oh, ça aurait pu être un bon coup dans les valseuses, mais ouais, c'est pas vrai. Vraiment le cas. Donc, le film sort en 76, Calmos. La commission de censure l'interdit aux moins de 18 ans immédiatement, et la presse, de gauche comme de droite, s'en prend violemment à lui. Pas tant sur le fond que sur la forme. C'est-à-dire qu'on lui reproche pas tant ses outrances, on lui reproche plutôt ses outrances, sa grossièreté, sa vulgarité, plutôt que la violence de sa charge misogyne. Et les entrées vont être assez miséreuses, hein, puisqu'il va y avoir 739 000 spectateurs. C'est rien comparé aux presque 6 millions des valseuses 2 ans auparavant. Donc échec critique, échec public. Calmos est resté un petit peu une sorte de film maudit. Et aussi, on va y revenir un peu, un film culte. Bon, j'ai raconté un peu l'histoire du film, hein, et j'en profite d'ailleurs pour vous avertir, chers auditeurs, chères auditrices, je vais devoir évoquer la représentation de viol et violence sexuelle. Alors, si vous ne vous sentez pas la force d'écouter ça, éteignez votre poste pendant 6 minutes, mais n'oubliez pas de le rallumer juste après, parce qu'on a plein d'autres chroniques vachement intéressantes. De quoi ça parle ? Un gynécologue. La première scène nous le montre dans son cabinet, face au sexe d'une patiente qui s'étale en gros plan sur l'écran, ce qui écœure notre bon médecin. Il fuit, et dans la rue, après avoir insulté une femme, on l'a entendu dans l'extrait, qui lui demande juste son chemin, il s'épanche auprès d'un passant compatissant. « Sinon, nerf lâche !» Ça risque... J'ai mis très très mal, je préviens, Jean-Pierre Marielle. Hein. « Sinon, nerf lâche !» Ça risque d'abîmer leur petite gueule, et elles auront ce qu'elles ont cherché. Bref, en gros, il est en train de dire, à force de nous faire chier, elles vont finir par s'en prendre une. Le passant, donc joué par Jean Rochefort, un autre gros moustachu, enfin grand moustachu, qui est un proxénète, et lui aussi à bout contre les femmes, et donc ils vont fuir ensemble à la campagne, ils vont manger, boire, ils vont péter, ils vont se réjouir de la taille de leurs étrons, c'est dans le film, hein. Et en fait, ils n'ont plus à baiser, et ça leur fait un bien fou.
Note que cela dit... Ça donne une bonne image du virilisme, du masculinisme, tout ça.
Ah oui, clairement, mais de toute façon...
Boire et péter, c'est cool, quoi.
Ah mais clairement, depuis la soupe aux choux de Jean Giraud, on sait que c'est la recette du bonheur. Et en fait, ces deux personnages annoncent à leur manière, je trouve, le mouvement MGTOW, je sais pas comment ça se prononce, Men Going Their Own Way, littéralement, les hommes qui tracent leur propre route. C'est un mouvement masculiniste qui est apparu au Canada, terre de contraste, au début des années 2000, et qui prône un désinvestissement des rapports hommes-femmes par les hommes. Et ces rapports hommes-femmes étant présentés comme oppressifs. On ne rit pas. Donc, sauf que les femmes retrouvent nos deux précurseurs du film Calmos, puis plein d'autres femmes, puis des hordes de femmes armées en tenue militaire, montées sur des chars d'assaut qui vont traquer les hommes pour les capturer et les forcer à copuler à la chaîne. Donc le film, en fait, à la fin, bascule dans une espèce d'illustration ultra littérale de la guerre des sexes, une dystopie matriarcale où l'homme est réduit en fait à un outil reproductif, drogué avec des électrodes et violé en série. Et le film se termine par les deux protagonistes, attention spoiler, mais le film date de 75, donc on m'en voudra pas, qui après avoir réussi à fuir, rampe pour pénétrer dans un vagin géant et retourne à l'état fœtal, on va dire presque littéralement. Donc quand j'ai cherché la bande-annonce de ce grandiose nanar sur YouTube, pour les besoins de l'émission, hein, mon regard s'est égaré sur les commentaires qui avaient été postés par les internautes. Et c'est vraiment une pratique que je recommande, en fait, parce que ça permet de voir, pour quiconque s'intéresse à la vie posthume des œuvres, quelle est un petit peu la vision actuelle et le sismographe du rapport entre l'époque actuelle et l'œuvre du passé. Et donc, globalement... sous les scènes de Calmos, il y a deux registres. Il y a la nostalgie un peu mollassonne. Le cinéma français, c'était quand même autre chose. C'était mieux avant. Hein.
Marielle... Ça fait rire.
Ah oui, ça fait rire, effectivement. Hein. Marielle et Rochefort, quel monument. On savait encore faire du cinéma populaire. Et de l'autre, il y a aussi un masculinisme parfois à peine voilé. Genre, j'ai repris cette phrase. C'est un film d'anticipation. Parce qu'on vit clairement dans ce que raconte le film, on est bien d'accord.
Hein. Oui. Oh, mis à part qu'il y a... A priori, il n'y a plus besoin des mecs pour se reproduire maintenant.
Oui, bon, on attend encore les armées de femmes.
C'est un petit peu ça, ouais. Elles n'ont pas encore pris d'assaut les chars d'assaut, pour le coup. Et donc, en fait, ces commentaires montrent que le masculinisme d'hier et celui d'aujourd'hui, c'est la même chose. Hein, ce que tu disais, c'est toujours un petit peu les mêmes ressorts et toujours le même discours, la même rhétorique chouinante du « on ne peut plus rien dire » qu'on devait déjà dire en 500 avant Jésus-Christ.
Oui. Bah, d'ailleurs, comme tu dis, dans les commentaires de ce film, il y a des gens qui disent au moins, on pouvait encore dire ces choses-là à l'époque.
Oui, c'est
ça. Donc, ça m'étonne pas.
C'est ça.
Ça va tellement avec.
Et donc, ce qui est intéressant avec Calmos, c'est moins le film lui-même, hein, qui n'est vraiment supportable que dans sa première partie et uniquement grâce à la gouaille des deux acteurs, mais qui devient vraiment pénible et même irregardable dans sa dernière partie, que ce qu'il révèle de son époque et d'un certain cinéma français. Et là, je voudrais m'appuyer sur une chercheuse, en l'occurrence une historienne française, Hélène Fisch, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ce que le féminisme fait au cinéma » et qui est consacré justement aux années 70, paru l'automne dernier aux éditions Agone. Hélène Fisch a étudié les 360 films français qui ont attiré plus de 700 000 spectateurs, donc Calmos inclus, pendant cette décennie. Et sa conclusion, le féminisme sur le cinéma de la période se mesure moins dans les films de l'époque en mode qui illustrerait l'avancée des droits des femmes et les conscientisations, plutôt que dans la contre-attaque que génère justement cette avancée, cette prise de parole des femmes. Et du coup, la domination masculine, elle s'exprime à travers les films de l'époque, notamment les films populaires. Et dans un article qui est paru en 2016 dans la revue Genre en série et qu'on mettra dans les dans la liste des sources sur le site de Radio Libertaire, Hélène Fisch avait déjà identifié un motif récurrent dans le cinéma français de ces années-là, c'est des groupes d'hommes en crise qui fuient les femmes pour reconstituer entre eux une espèce d'espace édénique, homosocial, viril, régressif, un petit peu quand même vaguement homo-érotique derrière. Et quand on regarde effectivement La Grande Bouffe, Les Valseuses, Vincent, François, Paul et les autres, c'est vraiment ça, ou Mes chers amis en Italie aussi. Le même scénario se répète toujours. En gros, c'est des hommes d'âge mûr qui bouffent trop, qui boivent trop et qui ont envie de fuir leur femme pour se retrouver entre eux parce qu'on est tellement mieux entre couilles. Vraiment, Calmos, dans ce cas-là, c'est vraiment un film intéressant parce qu'il est vraiment le plus explicitement agressif et au moins lui, il est. Il y va à fond, quoi. En gros, c'est la femme castratrice qui est vraiment une espèce de cauchemar. Et les hommes sont vraiment bien qu'une fois qu'ils sont entre eux. Et le film renverse tout. Et au moins, il a, on va dire, l'avantage d'être frontal quand d'autres ont présenté un peu leur idéologie sous des ors plus polissés, ce qui leur a valu de plus grands succès commerciaux et critiques. Des films comme Un éléphant, ça trompe énormément et sa suite, ouais. Ce genre de films.
Disons que celui-là, on lui fera pas de procès en hypocrisie. Au moins, il les cache, quoi.
Voilà. Donc le film se veut un petit peu comme pour être vu comme un retournement satirique en fait, en montrant des femmes qui se comportent comme des prédateurs sexuels. Le film pourrait dénoncer en creux la prédation masculine habituelle, mais bien sûr ça tient pas à l'analyse. Je pourrais vous citer plein d'exemples, mais leur tourne. Donc je vais juste faire une petite parenthèse au sujet de Bertrand Blier, qui est un cinéaste pour qui j'avais plutôt de l'affection dans ma jeunesse et dont je conserve un petit peu d'estime encore pour quelques œuvres comme Buffet froid ou Trop belle pour toi. Mais en gros, bah, c'est vrai que dès Les Valseuses, il montre des scènes de viol comme si c'était en fait pas grand-chose, quoi. Le consentement, c'est pas important. C'est avant tout montrer des hommes comme des braves garçons un petit peu immatures. Et ce qui arrive aux femmes, c'est un peu un dommage collatéral. C'est même pas
c'est même
grave.
Le pire, c'est que c'est pas grave, quoi.
Voilà.
Parce qu'elle reste.
C'est drôle, c'est pas grave et quelque part un peu elles l'ont bien cherché. Et faut pas oublier donc que Blier a partagé 10 ans de sa vie avec Anouk Grimbert, qui a donné un fils et qui a publié l'an dernier une autobiographie qui s'appelle Respect, dans laquelle elle décrit avec précision les violences notamment psychologiques mais aussi physiques qu'elle a subies de la part du cinéaste qui était décédé peu de temps auparavant. Emprise psychologique, prise forcée de neuroleptiques, gifles, etc., etc. Je passe le détail. Et donc globalement en fait l'idéologie réactionnaire de ces films là qui apparaît bon enfant, truculente, drôle à voir même au second degré avec 50 ans d'écart, il faut pas oublier que derrière c'est des hommes qui en fait pourrissent des femmes et qui en gros sont bien contents de se retrouver entre eux pour continuer à les dominer tranquillement. Sur ce je pense que je peux laisser la parole au moins à Paris Paloma.
Tout à fait, Paris Paloma et sa chanson Good Boy, qu'elle a écrite et sortie en 2025, avec les premières lignes prononcées par Emma Thompson, qui nous dit qu'elle a toujours su qu'un jour les hommes feraient brûler le monde, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce soit de pareils losers.
I knew one day I'd have to watch powerful men burn the world down. I just didn't expect them to be such losers.
I I have never seen submission embodied half so well as in the feeble competition between men with souls to sell. And I've never seen a guard dog with less fearsome of a bite than with its tail between its legs found at the rich man's side. Look at him, he's sweating from the climb, office worker, soldier, CEO. He's bleeding and he's blind, and I have never seen a creature more pitiful than him. Power like salt water, all because he cannot swim. Mouths open, serving, serve a higher path. They told him it's a staircase, it's a town. Full circle, wagging tails, wearing a collar. Poor madman, that's what happens when you drink some water. Find your tongue too early and realize too late the tragedy of losing the thing you'll never taste. The clearness of the river, the honey on her tongue. Door open to communion, being your father's son. And I would not expect you to witness what we know. The song sung in the dark times, the fire and the snow. We'll be piling up our fire and defend your lords. And we'll have our joy, but it will never be ours. Mouths open, servants of a higher power. They told him it's a staircase, it's a tower. Full circle, wagging tails, wearing a collar. Even the ducks know not to drink some water. Good boy, your work it exactly is intended. Has the penny dropped, you're never gonna get it. Unrewarded for all of you defending from your loneliness epidemic.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM et vous écoutez l'émission En panne de sens et la parole est maintenant à Camille.
Alors, un petit avertissement pour commencer. Je vais parler de sujets difficiles, notamment de viol et d'inceste. Donc si ces sujets sont trop sensibles, vous avez la possibilité d'y revenir plus tard grâce au podcast. Prenez soin de vous, protégez-vous. Mais malgré tout, étonnamment, c'est peut-être quand même la chronique la moins pessimiste de ce soir, et moi-même j'ai du mal à le croire. Et cette chronique, c'est un pur témoignage. En effet, je suis suffisamment âgée pour avoir déjà mené le combat féministe il y a 25-30 ans environ, donc pour avoir subi un précédent backlash, ou en français, retour de flamme. Toutes les féministes plus âgées me le disaient déjà à l'époque, chaque génération doit combattre, chaque génération subit son backlash. J'y reviendrai. Pour commencer, une remise en contexte juridique pour les plus jeunes. À l'époque dont je vous parle, la loi française ne connaît pas la notion d'inceste. Elle prévoit des circonstances aggravantes si l'agresseur est un ascendant naturel, légitime ou adoptif. Donc, si c'était votre cousin qui a le même âge que vous, ben c'est pas un ascendant. Autre différence, une personne victime d'agression sexuelle, quand elle était enfant, n'a que jusqu'à ses 28 ans pour porter plainte. Après, c'est prescription. Vous trouvez ça court comme délai ? Eh oh, une décennie plus tôt, vous n'aviez que jusqu'à vos 18 ans pour le faire. Ça va bien là quand même. Enfin, troisième différence, La notion de viol conjugal n'existe pas en droit français. Une femme mariée est réputée consentante par défaut à tout acte sexuel imposé par son mari, à quelques exceptions près tout de même. Si le mari bat ou torture sa femme avant le rapport sexuel, alors là, on veut bien accepter l'idée que le consentement de madame ne tient plus. Donc, il y a un quart de siècle, c'est sur tous ces fronts que je me suis battue. Faute de temps, je vais prendre un seul exemple. Mes camarades de lutte et moi voulons impérativement faire reconnaître la spécificité de l'inceste, d'une part, et des violences commises sur les enfants, d'autre part. Je me souviens d'une conférence devant des étudiants et étudiantes en droit, ignorant complètement les notions de syndrome de stress post-traumatique, amnésie post-traumatique ou encore flashback. Le fait qu'on puisse être traumatisé par un viol, au point de l'oublier, puis de s'en souvenir en faisant des cauchemars récurrents, était une notion extraterrestre pour certains de mes interlocuteurs. Des luttes, des combats, des fronts, il y en avait beaucoup d'autres, mais venons-en au retour de flamme. La première chose que je me suis prise en pleine figure, c'est une invention venue des États-Unis, le syndrome des faux souvenirs. Résumé lapidaire, car l'heure tourne, une jeune femme porte plainte contre son père qui l'a violée, le père nie. Dans la foulée, il crée une fondation dont le but sera de prouver que si sa fille l'a accusée, c'est la faute du psychiatre de sa fille qui a favorisé la création de souvenirs imaginaires. Dès lors, les arguments que nous utilisions se retournent contre nous. Exemple, quand la mémoire d'une victime est parcellaire, ce n'est plus la preuve que le viol est une expérience traumatique qui fragmente les processus cognitifs en œuvre, c'est au contraire le signe que, après tout, ce petit morceau de mémoire précise qui flotte tout seul sur un océan de symptômes, ce serait pas juste un truc que t'as inventé pour donner du sens à ton mal-être ? Deuxième temps fort du backlash, ça se passe en France, c'est l'affaire Doutreau. Nouveau résumé lapidaire, pour les détails, voyez la page Wikipédia. Des enfants victimes de viol parlent, la procédure judiciaire est menée n'importe comment, des hommes sont accusés à tort. Tout le monde se met à plaindre ces hommes, à parler de ces hommes. Tout le monde oublie qu'il y a aussi des enfants qui ont bel et bien été violés. Et la boucle du retour de flamme est bouclée. Si tu parles quand tu es enfant, personne ne te croira parce que de toute façon, c'est bien connu, les enfants mentent et inventent des histoires. Regarde l'affaire Doutreau. Et si tu parles à l'âge adulte, qu'est-ce que t'attendais pour le faire avant ? T'es sûr ? Vraiment sûr de ce que tu racontes ? Regarde le syndrome des faux souvenirs. Je veux donc témoigner que, quand le backlash de ma génération s'est refermé sur moi, j'ai complètement cessé d'y croire. J'aurais mis ma main à couper que le mot inceste n'apparaîtrait jamais dans la loi française, il y est apparu en 2016. Que le viol conjugal ne serait jamais reconnu, il a été reconnu en 2010. Que les médias mainstream n'emploieraient jamais le mot féminicide, ce mot est banal depuis 2018. Que je n'entendrai jamais ailleurs que dans une chanson d'Alanis Morissette, un homme se remettre en question. Que jamais, donc, un homme blanc cisgenre ne dirait lui-même, comme un streamer l'an dernier, « Avant MeToo, j'étais sûre d'avoir toujours été un mec réglo. Depuis MeToo, je peux seulement espérer que je l'ai toujours été. » Conclusion, battez-vous même quand vous ne voyez pas d'issue. Battez-vous en vain. Battez-vous sans y croire. Battez-vous quand tout est foutu. Battez-vous jusqu'au bout de vos forces. Puis arrêtez et prenez soin de vous. Car la génération suivante saura s'emparer de vos combats et d'une manière que vous ne pouviez pas imaginer, vous dépasser. Certains de mes vieux combats sont toujours d'actualité, d'autres sont devenus obsolètes. C'est bon signe. C'est le signe que, malgré l'éternel retour de balancier, des impensés deviennent pensables, des tabous se retrouvent dans la lumière. Vous qui vous faites foudroyer par le backlash d'aujourd'hui, comptez sur ça. L'un de mes vieux livres de chevet, paru aux États-Unis il y a 32 ans, contient déjà un chapitre intitulé « Stratégie personnelle pour résister au backlash ». Tenez bon, tout est perdu, rien n'est perdu.
En fait, il n'y a plus qu'à toi qui a plombé l'ambiance maintenant, Luc, c'est ça ?
C'est ça, je vais essayer de faire la chronique la plus pessimiste ce soir. Donc le thème de l'émission, c'était, bon, c'est moi qui l'avais apporté initialement parce qu'il y a un ensemble d'éléments qui me trottent dans la tête depuis un petit moment. Éléonore tout à l'heure a bien parlé de la façon dont l'extrême droite exploite un sentiment anti-féministe et anti-femme, enfin voilà, et pour mettre en avant les les hommes, etc. On n'a pas cité Eric Zemmour, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, c'est un champion. Hein. Donc, voilà, ce point de départ, on le partage très clairement. Il y a quelque chose que je vois passer depuis un moment. Il y a en sociologie des études qui ont été menées, plusieurs, hein, dans différents pays, et c'est une tendance qu'on retrouve dans tous les pays industrialisés, donc c'est pas une spécificité française ou européenne, qui est un écart grandissant entre les jeunes femmes et les jeunes hommes, hein, donc qui ont moins de 30 ans. Les jeunes femmes sont plus progressistes que les générations précédentes. Dans certains pays, c'est assez spectaculaire. Il y a des évolutions très importantes. En revanche, les jeunes hommes sont plus conservateurs que leurs aînés de la génération précédente. Et tout ça est bien inquiétant parce que avoir la vingtaine aujourd'hui, je pense que ça doit être un festival de frustration assez important vu les écarts qui ont pu se creuser.
Peut-être que c'est justement le problème.
Alors, je pense que ça participe du problème. Voilà. Sur ces questions de féminisme, de la condition féminine, nous vivons dans des sociétés où la démographie est en berne. En France, jusqu'à il y a quelques années, on était un peu l'exception, mais c'est fini. En Russie, actuellement, les jeunes femmes qui ne veulent pas d'enfants se font orienter vers des psychologues, psychiatres qui vont essayer de les remettre dans le droit chemin et leur faire comprendre et admettre qu'elles veulent des enfants. En France, on est bien sûr beaucoup plus civilisé, donc notre Macron favori a envoyé un SMS à toutes les femmes de moins de 30 ans pour leur, voilà, les motiver à faire des enfants. On aurait pu proposer un avenir auquel on puisse croire et des conditions de vie sympathiques, mais non, on va essayer de les forcer à les faire rentrer dans un rôle voilà, de pondeuse, hein, sachant que Macron avait parlé à l'époque de réarmement démographique. Je n'ai pas d'utérus, mais avec un mot pareil, je pense que
je sentirais trafic en d'armes.
Voilà.
Alors, moi, ce qui m'effraie un peu dans ce truc-là aussi, c'est que le poids de la contraception, il a été intégralement porté par les femmes jusqu'à il y a quelques années, que ce soit financièrement, moralement, etc. Les mecs, ils ont toujours été écartés de ça en plus.
Oui. Alors, oui, je ne sais pas comment réagir là-dessus. Je pense que je ne suis pas le plus pertinent là-dessus. Excuse-moi, je continue mon truc. Je ne saurais pas rebondir sur ce que tu dis. Non, j'en parle un petit peu.
Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une interdiction qui va finalement toucher essentiellement les femmes quand ça arrive et qui du coup est encore un truc, même si en fait ça concerne tout le monde, sera traité de manière hostile aux femmes en fait.
Oui. Alors, Eleanor tout à l'heure a beaucoup parlé des États-Unis et je vais faire la même chose. Donc je vais vous parler de quelque chose, c'est pas une grande référence, mais je suis sur Mastodon, qui est un réseau social libre, et sur Mastodon, il y a une américaine, une transsexuelle, qui répond au prénom de Lana, et qui indique qu'elle a grandi dans un milieu, très conservateur, dans la Bible Belt, j'ai du mal à le dire, et elle explique, c'était par rapport à toutes ces histoires de Trump, etc., sa vision des choses pour avoir grandi là-dedans, et comment, quelle est la logique qu'il y a dans ce modèle de conservateur. Elle dit qu'en gros, c'est une sorte de chaîne de responsabilité. Tout en haut, il y a Dieu, et ensuite, il y a l'homme. Et donc, l'homme rend des comptes à Dieu, donc un personnage imaginaire, donc il est quand même assez tranquille, et certainement pas à d'autres institutions humaines. Donc dans son idéal, il ne rend compte à personne, sauf à son ami imaginaire. Ensuite, il y a l'épouse. Et Lana dit bien, c'est l'épouse, et ce n'est pas la femme. Parce que la femme, en tant que femme, est indépendante, elle n'est pas liée au mari, et donc c'est un problème. Donc une femme est destinée à devenir une épouse, et une fois qu'elle est une épouse, elle dépend d'un homme. Et ensuite, il y a les enfants, qui sont entièrement gérés ou quasi entièrement gérés par la femme, par l'épouse, pardon, et dont le père ne s'occupe pas, l'homme ne s'occupe pas, puisqu'il délègue ça à la femme, elle est bien occupée, et donc elle lui obéit, lui va faire l'autorité, etc.
On est sur une partition des rôles qui est très... Il y a la mère, la femme, éventuellement, si on va au bordel, il y a aussi... Mais on est vraiment sur un truc très, très, avec des cases et des...
C'est ça. Mais ce que je trouvais très intéressant dans ce modèle qu'elle décrit, c'est qu'on voit comment l'homme est au sommet de la chaîne avec son ami imaginaire qui est censé lui servir de guide, et en fait il est dans un pouvoir absolu, dans un asservissement avec des gens qui vont être en dessous de lui, et finalement il n'a de compte à rendre à personne et on lui obéit. Et ça me fait penser à d'autres personnes dont je vais parler un petit peu plus tard, et à des idéaux qui sont poussés par des gens bien plus puissants que cela. Aux États-Unis, ce qui s'est passé lors du premier mandat de Trump, c'est que il y avait avant un droit à l'avortement qui était au niveau fédéral. Toutes les Américaines avaient le droit d'avorter. Et évidemment, on le sait, ça fait des décennies que les conservateurs essayent d'attaquer ce droit à l'avortement. Et Trump a réussi à faire ça. Et donc aujourd'hui, l'avortement n'est pas illégal aux États-Unis, mais les États, différents États, ont la liberté de le rendre illégal. Et c'est notamment le cas du Texas, qui est sans doute l'État le plus radical dans le domaine, mais pour qui un avortement, c'est un meurtre avec préméditation, donc 30 à 40 ans de prison. Il y a des tonnes de drames derrière, parce qu'évidemment, ça met les femmes dans des situations terribles. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ce qui s'est passé, on peut dire que voilà, c'est un coup dur. Récemment, la Maison-Blanche a affirmé que la pilule, le stérilet ou d'autres moyens sont des moyens d'avortement. Et donc, ils mixent le mélange. Enfin, en gros, ils brouillent la frontière.
Ils mélangent l'avortement et une forme de contraception, d'avortement préventif qui serait la contraception.
C'est ça. Et donc, on comprend bien que l'interdiction d'avortement, ça n'est qu'un début. Et une fois qu'ils ont mis le pied dans la porte, ça leur permet d'attaquer la contraception. Ouais. Alors,
mais par contre, pas la masturbation masculine, on est bien d'accord.
Oui, qui est un génocide, c'est ça.
C'est ça. Ouais.
Donc les femmes les Américaines qui sont dans ces états où elles sont traquées sont en très mauvaise posture, puisque nous vivons dans un monde où on est fliqué par les téléphones et ce genre de choses. Donc la police peut récupère des informations personnelles auprès de Meta, donc Google, Amazon, etc. Meta et Google. Donc Meta, je rappelle, hein, c'est Facebook, Instagram et ce genre de choses. Et il y a notamment un cas documenté d'une femme qui s'est retrouvée condamnée parce que la police a demandé à ces entreprises de donner accès aux infos sans expliquer pourquoi, et elles ont trouvé ce qu'elles cherchaient sur l'avortement. Les pharmacies en ligne aussi vendent des médicaments qui peuvent être liés au contrôle des naissances, mais elles vendent aussi les données personnelles de leurs clients. Et les femmes peuvent se faire choper par ce biais-là. Et voilà, il y a d'autres cas de ce type-là, mais on vit dans un monde de surveillance.
À noter que même en France, maintenant, les données médicales, elles passent par les GAFAM. Il y a eu une sorte de Doctolib il n'y a pas très longtemps.
Oui, il y a beaucoup de combats justement là-dessus. Et à une époque, ils avaient signé avec Microsoft et ça fait beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, on est en plein dedans, justement, sur des... Voilà. Et ce cas montre pourquoi c'est important de contrôler ces données. Ensuite, il y a les élites cannibales. Donc, expression que je vole à un auteur qui s'appelle Ulifemi Otaiwo. Il est africain, je ne sais pas trop, il y a des accents partout. Je massacre son nom. Il faut que je lise son livre. Je lis son livre, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je trouve le nom élite cannibale super pertinent. Donc il y a les dossiers Epstein, et il y a des articles qui disent que dans ces dossiers-là, on voit une obsession pour le sexisme, le racisme et l'eugénisme. Donc Epstein n'est pas juste un prédateur qui profite, c'est quelqu'un qui a un projet politique de domination. Et on connaît tout son réseau de relations, le fait qu'il était copain avec Trump pendant très longtemps. Pete Hegseth, qui est le secrétaire d'État à la guerre américain, qui a fait venir des pasteurs pour faire la messe au Pentagone. Ces pasteurs ont une chaîne YouTube sur laquelle ils expliquent que les femmes ne doivent pas faire de vagues en public, on retrouve ce que Léo disait tout à l'heure, ne peuvent pas occuper de postes à responsabilité, et en clair, et littéralement ils le disent, fermer leur gueule, to shut up. Peter Thiel, qui est un des plus gros financeurs de la Silicon Valley, est considéré comme l'idéologue des libertariens. Lui, dans tous ses délires, parce que il dit que les problèmes des États-Unis ont commencé en 1921, qui est l'année où les femmes ont eu le droit de vote. Donc, on a des attaques, y compris sur ce truc-là, et donc entre les pasteurs et Peter Thiel, le droit de vote, c'est un problème. Et Peter Thiel parle beaucoup de l'antéchrist sous une forme symbolique. Et pour lui, l'antéchrist ultime, c'est Greta Thunberg. Donc une femme, voilà, elle coche toutes les cases. Il y a Alex Karp, qui est un petit peu moins connu, qui est le patron de Palantir. Palantir, c'est une solution de surveillance d'espionnage utilisée par les militaires et les services de sécurité. et qui a, il y a deux mois, lancé un appel à toute la Silicon Valley à se ranger derrière le gouvernement américain et devant la, derrière la puissance militaire américaine en disant que l'IA, puisqu'il utilise essentiellement de l'IA, était un moyen de domination du monde et qu'il fallait être, il fallait y aller. Et dans les dangers qu'il voit, qui pourraient les freiner.
Ça fait partie des actus récentes que j'avais effectivement
mentionnées. Tout à fait. Quelques et il a quand même dit qu'il ne fallait pas laisser les femmes démocrates enrayer la course à l'IA. Donc, ça.
En plus, elles sont démocrates et latino-américaines.
C'est voilà. Alors, on se doute qu'il fait ça pour plaire à Trump, mais on voit qu'attaquer tout ce qui va symboliser du progressisme et surtout les femmes, c'est essentiel. Zuckerberg, donc, qui, le patron de Meta, a affirmé qu'il fallait réinsuffler de l'énergie masculine dans Meta, donc au début du mandat de, deuxième mandat de Trump. Et il a dégagé l'essentiel des équipes de modération. Donc les discours de haine sont très, comment dire, se portent bien sur ses réseaux sociaux. Mais en même temps, il fait la chasse aux mouvements féministes et LGBT un peu partout et il les censure. Et ça, c'est des trucs américains, mais ça nous concerne directement parce que le pouvoir américain, le mouvement totalitaire américain considère que le monde lui appartient. On le voit avec les différents mouvements de Trump. Et nous, Européens, nous sommes une cible. Et donc, récemment, en France, la Fondation des Femmes, qui est sans doute pas les féministes les plus radicales qui soient, ont lancé une campagne de financement qui s'appelle Inarrêtable et qui a été bloquée par Meta parce que c'est des trucs sociaux un peu politiques qu'on n'aime pas. On se doute que les masculinistes, le fascisme, etc. n'a aucun problème à faire tout ce qu'il veut sur les réseaux sociaux de Meta. Et ça n'est pas un cas isolé. Il y a plein d'articles qui, et de témoignages partout dans le monde de groupes féministes LGBT qui se font censurer. Voilà. Côté masculinisme, j'en rajoute un petit peu. En France, on a eu, il y a peu de temps, une attaque sur le 3919, qui est le numéro pour les femmes victimes de violences, où il y a une attaque coordonnée qui démontre que les masculinistes en France, c'est pas juste des mecs énervés, isolés des uns des autres. Ils sont capables de mener des actions concertées. Et la DGSI, qui nous écoute sans doute, j'imagine avec un robot, on leur fait un petit coucou, a un service qui surveille les masculinistes et les considère comme une menace terroriste. Donc on retrouve.
Je pense pas que ce soit pour ça qu'ils nous surveillent, cela dit.
Oui, non, certainement pas. Et ils disent qu'ils sont de plus en plus jeunes, donc 13-17 ans, et de plus en plus dangereux. Ils ont récemment arrêté un adolescent qui allait au lycée avec deux couteaux dans son sac parce qu'ils avaient la conviction qu'il allait tuer des lycéens.
Ce qui renvoie à la série Adolescence dont parlait Léo un peu plus tôt.
Donc, en conclusion, j'ai l'impression qu'il y a une régression énorme qui nous pend au nez avec tous ces moyens qui sont synchronisés. Il y a une logique à attaquer d'emblée la moitié de la population, et surtout quand c'est, pour la jeune génération, la plus progressiste. Dans l'émission, j'ai choisi et un peu insisté pour qu'on dise que les femmes sont en première ligne, et elles ne le sont pas par choix ou par héroïsme, mais parce que elles sont attaquées directement par une guerre qu'on leur a lancée et qu'on nous lance à tous. Voilà. Je suis désolé, j'ai débordé abondamment.
C'est pas grave, on fera sauter le morceau final. En plus, c'est du disco, c'est pas très important.
Yann, c'est
un morceau de Crass que je pense qu'on n'a pas besoin tellement de présenter sur Libertaire, mais bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, collectif britannique d'anarcho-punk qui est fondé dans une maison communautaire de quartier en 78, et c'est son troisième album qui s'appelle Penis and V, avec un emballage de poupée gonflable en couverture.
Voilà, la photo est terrible.
Voilà. Et c'est un collectif, donc il y a plusieurs chanteurs, etc., qui normalement alternent. Là, sur cet album, il y a juste les deux voix féminines, sachant que le chanteur est crédité comme absent de cet album. Et donc, voilà, on va mettre ça. C'est vachement.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Voilà, alors on a tous un trou du cul, mais il n'y aura pas d'avis parce qu'on a trop débordé, ça a trop glissé. Donc vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez donc l'émission En panne de sens qui se termine. Donc on mettra nos conseils sur la page du podcast sur le site de la radio. Alors, on va quand même prendre quelques minutes pour parler de l'anniversaire de la radio, parce que Radio Libertaire fête ses 45 ans. Et l'émission Epsilonina, c'est 40 ans sur Radio Libertaire. Voilà. Donc, le samedi 20 juin, de 14h à 18h, il y aura une émission spéciale publique. Et ça se déroulera...
Le 20 juin, c'est déjà passé. Hein.
20 juin... Oh la vache. Non, mais je suis un peu perdu. Voilà. Bah, donc, du coup, il n'y a rien à annoncer.
Ouais, c'est juste pour annoncer qu'il y avait d'autres choses dans la foulée, en fait. Mais c'est pas grave.
Voilà. La fête de la musique aussi, hein, c'est passé aussi.
Ah bon ouais. Et Noël aussi. Bon, ok. On me dit rien. Ok, donc alors bon, quand même sur l'émission, nous, on passe donc tous les deuxième et quatrième lundis de chaque mois, ce qui fait qu'on se retrouve dans 3 semaines. Et moi, je serai pas là, je serai en vacances, donc vous débrouillerez sans moi.
Ouais.
Voilà. Comme ça, je déraperai pas. Donc vous pouvez donc retrouver bien sûr le podcast avec toutes les références, les liens d'articles qu'on utilise pour les chroniques sur donc la page podcast sur le site de la radio, radio-libertaire.org. On partage des articles et on essaye de discuter un petit peu sur un site du Fait Divers qui s'appelle jelet.lu. Vous pouvez nous y retrouver également si vous voulez partager, lire, etc. Et nous lançons une newsletter parce que nous sommes des gens du 21e siècle.
Des gens modernes des années 90.
C'est ça, voilà. Donc en panne de sens tout attaché @proton.me.
Vous nous écrivez et on vous écrit en retour. Promis, on dira que des choses intéressantes et passionnantes.
Voilà, et donc on va se quitter avec un morceau, Sébastien, que tu as choisi.
Oui, Macho Man des Village People, c'est du disco, parce que je me suis dit qu'à un moment, il faut quand même rendre aux hommes ce qui leur appartient. C'est le culte du corps, le virilisme et aussi un petit peu de communauté LGBTQIA+, qui s'est réapproprié ce morceau de manière assez savoureuse. Salut, salut!
I've got to be a macho man, yeah. I've got to be. Oyez, oyez, auditrice, auditeur du 89.4 de la radio libertaire. Il est 22h34. C'est l'heure où débute cette nouvelle émission d'Indésine, qui tous les 15 jours vous invite à retrouver son équipe avec Estelle, Xavier, Titoun, Vincent, Joël. Réunis ce soir autour de Sébastien et de votre serviteur,